Bonjour Patrice Wallet, consultant en développement commercial.
Bonjour, c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information.
Bonjour, c'est RLP Business.
Ma petite entreprise connaît pas la crise.
Bonjour et bienvenue sur RLP Business numéro 6 avec Patrice et Stéphane, l'émission sur l'entreprise, le management, le commercial, l'économie en Périgord et ailleurs. Bonjour tout le monde, bonjour Patrice, ça va ?
Bonjour tout le monde, bien sûr que je vais bien.
Super, super. Donc aujourd'hui, nous recevons Raphaël de Mata du village ACB sur le site village-acb.fr qui est un regroupement d'artisans. Nous allons parler du bâtiment, nous allons parler d'artisanat, de tout ce qui va autour. Mais tout de suite, voici les actualités de la semaine.
Les actualités.
Alors, les faillites d'entreprises ont augmenté de 44% sur un an au premier trimestre 2023. Effectivement, la série se poursuit, mais il reste encore des gens qui se portent bien. Nous en parlerons juste après. En attendant, nous voulons de faire une petite réforme des retraites, là, dont vous avez certainement entendu parler. Patrice Wallet, n'oubliez pas, est consultant à Wallet Consulting et au cabinet grâce à qui il est spécialisé dans les seniors. Et en tant que spécialiste des seniors, il a un avis sur la réforme des retraites et l'avis du Conseil constitutionnel. Pat.
Alors, un avis, peut-être pas, mais plutôt une remarque. Que faire des seniors aujourd'hui ? C'est la grande question. Est-ce qu'il fallait absolument l'inclure dans le texte de loi ? En tout cas, les professionnels ont dit que non. Une loi est une loi. Ce n'est pas un moyen, ce n'est pas une discussion sur les moyens de la faire respecter. Maintenant, la grande question, c'est nos seniors, qu'est-ce que nous en faisons ? On recule l'âge de la retraite, donc il faudrait quand même s'assurer de pouvoir leur donner la possibilité de travailler jusqu'à la retraite, jusqu'à 64 ans. Ce qui, à aujourd'hui, n'a jamais été réellement pris en main par les gouvernements actuels et précédents. N'oublions pas une chose aussi, ce n'est pas les grandes entreprises qui sont les premiers employeurs en France. Les grandes entreprises sont minoritaires. L'entrepreneuriat, c'est les PME et PMI en France et françaises. Donc si on doit s'adresser aux chefs d'entreprise, ce sont ces structures-là et non pas les grands groupes.
Oui, on l'oublie un peu trop rapidement, mais le premier employeur de France, ce sont les PME et les TPE et les artisans. Nous y arrivons tout de suite.
L'invité de la semaine.
Raphaël de Mata, bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir sur ce studio de radio RLP Business 102.3. Alors, Raphaël, vous êtes chef d'entreprise de deux structures sur Périgueux, c'est bien cela ?
Oui, c'est ça. C'est ça, deux structures en fait, qui sont basées au même endroit à Marsac, en face de la mairie. La structure principale, c'est le village ACB. Et l'autre structure, qui est à l'intérieur aussi, c'est mon entreprise de plâtrerie et seconde œuvre dans le bâtiment.
Alors ce village, Raphaël, expliquez-nous. Moi je pense toujours petit village de Gaulois. Qu'est-ce qu'il y a dans ce village ?
Ben c'est exactement ça, Patrice, village de Gaulois. C'est une expression qu'on utilise aussi. Pour vous expliquer, c'est une organisation qui s'adresse à plusieurs personnes, en fait. Il y a plusieurs points de vue. Premièrement, c'est une cinquantaine, alors 51 pour être précis, entreprises, 51 entreprises et artisans locaux, c'est-à-dire répartis sur toute la Dordogne, qui adhèrent au village. Elles obtiennent un agrément, puisque le village est contractant général en travaux, elles obtiennent un agrément dans lequel on partage tous des valeurs communes qui sont à la fois professionnelles et surtout quelque chose de très important, humaines. Voilà, pour travailler ensemble tout le temps et notamment en équipe, il faut qu'humainement ça matche.
Donc il y a 51 artisans qui se sont regroupés, dans le village. Donc oui. Ça fait quand même pas mal d'entreprises. Mais oui. Quel est le but concrètement ?
Alors,
pour le client.
Alors, pour le client, on va parler... on a trois profils de clients. On a le particulier, la clientèle de particulier, le professionnel, par exemple un commerçant qui souhaite aménager un magasin ou une enseigne qui souhaite s'installer en Dordogne. Et on a aussi les administrations comme les mairies. Pour le client, l'intérêt, c'est de pouvoir avoir une réponse claire, réactive et d'avoir un interlocuteur unique pour faire des travaux. Je vous donne un exemple, les travaux de salle de bain, par exemple. Vous avez votre salle de bain qui est à refaire. En moyenne, une salle de bain, c'est 5 corps de métier différents. Ça passe par le plâtrier, le carreleur, le peintre, l'électricien, le plombier, le menuisier éventuellement. 5 corps de métiers différents. Ça demande déjà de connaître 5 artisans qui vont être capables de faire les devis dans les délais demandés par le client. Ensuite, être capable d'organiser le chantier, parce que 5 artisans à coordonner avec toutes les contraintes que ça peut proposer, c'est assez compliqué, notamment pour quelqu'un qui ne sait pas le faire. Alors, il y a des particuliers, on a des clients qui savent très bien le faire. Mais nous, notre service devient intéressant à partir de ce moment-là. Là, on est sur la salle de bain, mais ça peut aussi aller. On fait aussi des rénovations de maisons de A à Z. Voilà.
Très bien. Donc... Raphaël de Mata, du village ACB, dites-moi, un regroupement d'indépendants et d'artisans, pourquoi ? Est-ce que c'est pour vous mettre ensemble ? Parce que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ? C'est pour optimiser ? Pourquoi vous êtes mis ensemble et comment ça fonctionne ?
Mais en fait, vous venez de le dire, et d'ailleurs c'est rigolo parce que c'est ma signature de mail. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.
Magnifique.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que le service est tourné vers le client, mais aussi tourné vers d'autres intervenants, et notamment vers les artisans. Un artisan, par exemple, qui va être menuisier à l'aiguillac de Cercle, au niveau exposition auprès du public, ça va être assez compliqué, dans son petit dépôt ou au fond de son garage, de pouvoir faire sa publicité et de pouvoir communiquer. L'intérêt, c'est que nous avons un showroom de 350 mètres carrés, voilà, dans lequel on a plusieurs écrans et dans lequel on expose, en fait, on expose les artisans et on leur fait leur publicité et on développe aussi leur image.
Ouais, c'est un modèle que j'ai beaucoup vu, effectivement, à Paris et en Asie, sur le coworking ou autre, où vous mutualisez les frais, en fait. Vous avez un showroom pour plusieurs personnes, plusieurs métiers. Je suppose que ça revient moins cher d'avoir cette façon-là plutôt que si chacun avait son local, sa réceptionniste, etc. Et comme vous travaillez ensemble et que vous n'avez pas de compétences qui se chevauchent trop, vous passez les clients les uns les autres.
Exactement.
D'accord.
Aujourd'hui, l'avantage qu'il y a aussi pour une entreprise qui vient chez nous, c'est que nous avons 5 chargés d'affaires, qui font toute la démarche commerciale, études.
Oui, partager les commerciaux.
Exactement.
Bien.
Études et coordination de travaux. Aujourd'hui, un chargé d'affaires dans une entreprise en salarié, en coût, on va dire en moyenne, c'est à peu près 5000 euros par mois pour une entreprise. Un petit artisan qui travaille tout seul ou qui a 2 ouvriers n'a pas les moyens, lui, de pouvoir investir une telle somme pour un chargé d'affaires. Le fait d'être tous ensemble et d'avoir 5 chargés d'affaires, ça mutualise les moyens. Et dans notre organisation, nous sommes entreprise indépendante, contractant général. Donc un artisan qui adhère chez nous n'a pas de cotisation. En fait, il faut simplement qu'il adhère aux valeurs et qu'il respecte le protocole. Là, ça, c'est très important.
Il y a une charte éthique, en fait.
Oui, une charte éthique et un protocole de fonctionnement qui fait justement qu'on propose un service unique et ce qui peut nous différencier.
Ok.
Raphaël, pour que je comprenne bien, je suis client, je vais au village de Marsac, en face de la mairie de Marsac-sur-l'Isle, le village ACB, je rentre dans le village et là je vois une multitude d'écrans, parce que j'ai été voir sur votre site, hein, d'écrans digitaux.
Qui est très joli d'ailleurs, très très joli site.
Oui, qui est très très bien fait, oui, alors là, chapeau. Ça m'a surpris de pouvoir imaginer que dans un grand showroom, dans le bâtiment, on puisse amener du digital, du numérique, parce que c'est pas fréquent, tout du moins en tout cas dans notre département. Et on voit bien, quoi. On voit bien le revêtement d'une salle de bain, on voit bien les articles, les douches, les poignées, enfin tout ce qu'il faut pour une salle de bain ou pour une autre pièce ou pour un autre corps de bâtiment. On comprend, on se projette très très bien avec vos outils numériques. Et là où je voudrais dire chapeau, c'est qu'on tombe sur un professionnel qui nous accueille, qui nous guide et qui va construire le projet avec nous. Et non pas 10 artisans, s'il nous fallait 10 artisans pour ce projet. C'est bien ça. Est pris en main par un spécialiste, un professionnel qui va nous accompagner dans la globalité du projet.
Oui, c'est ça. Donc, et souvent, ce qui est intéressant aussi pour le client, c'est que une fois sur deux, un client qui rentre, il a des travaux à faire. Et lorsqu'il rentre, il découvre qu'on fait aussi tout le reste. C'est-à-dire qu'il va avoir ses travaux de couverture à faire à cause de la tempête de grêle qu'il y a eu à Ribérac.
C'est le guichet unique du bâtiment.
Un petit peu. Et après, suite à d'ailleurs à cette grosse tempête de grêle, il y a beaucoup de travaux induits, c'est-à-dire les travaux d'aménagement intérieur. Et là, nous, on est capable de répondre sur l'intérieur. Ce qui est important, c'est là-dessus qu'on travaille, et c'est notre combat au quotidien, c'est de travailler sur la réactivité de nos réponses. Parce qu'on entend souvent, très très souvent, nos clients qui nous disent « J'ai reçu un artisan il y a 2 mois, mais j'ai pas de réponse. » Ou alors, il m'a dit qu'il venait lundi à 10h, mais on est mardi, il n'y a toujours personne qui est venu. Voilà, ça, c'est ce qu'on entend. Et nous, on travaille justement à proposer un service sur lequel on s'engage complètement vis-à-vis du client.
Ah,
on
est c'est une règle que les gens oublient assez régulièrement. Le business, il faut que ça aille vite. Quand l'idée ou que la demande arrive, il faut avoir de la rapidité, de la réactivité.
C'est ça. Et avoir la réactivité et à la fois, la réactivité ne va pas contre la qualité. C'est-à-dire qu'on est capable aussi, et ça nous arrive, de refuser. Et c'est triste, mais si par exemple vous me demandez des travaux de couverture à Ribérac le mois prochain, ça ne sera pas techniquement possible. Ça ne sera pas possible. Donc, plutôt que de mal faire, on préfère ne pas faire.
Oui, mais vous pourrez offrir un agenda et signer un accord.
Exactement.
Déjà, vous ne mettrez pas 3 semaines pour répondre.
Non, voilà. C'est-à-dire que dans tous les cas, on n'a une réponse. Là, il y a les clients qui visitent, mais il y a aussi les clients qui appellent ou qui nous envoient des mails. Pareil, on a un protocole sur lequel, dans les 24 heures ou les 48 heures, si ça tombe sur le week-end, le client est recontacté. Il va y avoir un rendez-vous avec le chargé d'affaires et on va venir faire son étude.
Alors, Raphaël, on est pris en main par un spécialiste. Ça, je pense qu'on a bien compris, qui va pouvoir s'occuper du projet, notre projet, le projet du client dans sa globalité. Mais concrètement, après, qui suit ce projet ? On se retrouve nez à nez avec les artisans ou il y a quelqu'un qui nous accompagne jusqu'à la fin ?
Alors, le chargé d'affaires que vous allez rencontrer la première fois, c'est lui qui va aller du moment de l'accueil client jusqu'à la livraison des travaux et à l'enquête de satisfaction. C'est lui qui va être votre interlocuteur de A à Z. Alors, l'interlocuteur principal, parce qu'automatiquement, le dialogue est important lorsqu'on fait intervenir des artisans. Bien entendu, le chargé d'affaires n'est pas tous les jours sur le chantier, donc l'artisan aussi échange avec le client. Mais le responsable travaux, celui qui va gérer toute la coordination jusqu'à la livraison, c'est le chargé d'affaires.
Du village.
Du village, oui.
Très bien, très très bien, très très bien.
Alors, Raphaël de Mata du village ACB. On va rappeler votre site, village-acb.fr. En tant que regroupement indépendant dans le bâtiment, vous avez forcément une vision sur le marché de manière générale, parce que vous êtes plusieurs, vous communiquez entre vous, vous échangez avec vous. Première question, comment se porte le bâtiment actuellement dans le Périgord ? Est-ce que le business est bon ? Est-ce qu'il y a de la demande ? Est-ce que vous travaillez bien ?
Alors le bâtiment, en termes de business, il faut le voir selon plusieurs points de vue. En termes de business et de demande, en rénovation, parce que nous, on ne fait pas de travaux de neuf, on n'est pas dans la construction, on est exclusivement dans la rénovation. Donc la construction, je sais...
Vous travaillez sur l'existant.
Oui, on travaille sur l'existant. Actuellement, la demande se porte très bien. On a des demandes de travaux, notamment liées à la transition énergétique des logements. Automatiquement, les aides actuellement d'État sont des leviers pour nous amener des chantiers supplémentaires.
Donc les contraintes de l'État et les aides de l'État, en fait, sont des accélérateurs de business pour vous.
Oui, actuellement c'est comme ça. Le business en termes de demandes se porte bien. Maintenant, ça n'enlève pas les difficultés qu'on peut rencontrer, qui sont un petit peu des difficultés depuis les 10 dernières années, qui sont récurrentes, et notamment une en particulier, c'est le manque de main-d'œuvre. Voilà, c'est le manque de main-d'œuvre. C'est aussi un travail qu'on fait dans le village, parce qu'on vient de parler du côté client, mais on a d'autres services qui s'adressent à d'autres personnes, notamment des professionnels et des partenariats, pour justement avancer et pouvoir susciter des vocations auprès de jeunes, mais, et des moins jeunes aussi, hein, parce qu'on peut intégrer le bâtiment à 20 ans, mais à 30 ans, quelqu'un qui, 40 ans, quelqu'un qui veut changer de vie professionnelle et qui veut intégrer le bâtiment, c'est tout à fait possible.
Vous recrutez, vous formez ?
Alors oui, on recrute. Là, actuellement, dans mon activité au village, on a deux apprentis. On a une apprentie, Charlotte, qui est, elle, en BTS commerce. Donc, elle est dans le commerce et elle va continuer pour devenir chargée d'affaires et éventuellement dans l'encadrement commercial. Et après, j'ai Abdel qui, lui, est apprenti plâtrier.
Donc ça, c'est au niveau du village. Oui. Je suppose que chaque indépendant, chaque PME membre de ce village recrute aussi en interne.
Oui. Alors beaucoup, quasiment toutes d'ailleurs recrutent avec. Enfin, on des demandes de recrutement. Maintenant, c'est de la difficulté, c'est de trouver les réponses en face. On a un partenariat avec le CFA du bâtiment, qui est partenaire du village et qui fait des interventions régulières pour mettre en relation des apprentis avec nos entreprises adhérentes. Voilà, on travaille et malgré le fait qu'on peut entendre même de mes collègues, j'ai tout essayé, j'ai pas trouvé. Partir du principe qu'on a tout essayé, ça veut dire baisser les bras et c'est pas tout à fait notre démarche à nous. Même si la réalité est comme ça, il faut faire avec et il faut continuer à se battre pour trouver du monde.
Alors c'est surprenant cette situation, Raphaël, mais bien évidemment vous n'en êtes pas à l'origine, hein. C'est le constat que le bricolage a pris une envolée extraordinaire, j'ai envie de dire pendant le Covid, hein. Tous les Français se sont mis à faire du bricolage et tous les Français se sont mis aussi à apprécier de faire du bricolage, même pour ceux qui ne connaissaient pas ou qui n'étaient pas très manuels, et on y prend plaisir à bricoler, on prend plaisir à construire ou à rénover quelque chose, et d'un autre côté, les professionnels peine à trouver des collaborateurs. Alors, on sait bien, c'est dur, en tout cas, c'est plus dur que de passer une journée dans un bureau, quoique, à vérifier d'ailleurs, c'est peut-être pas les mêmes contraintes. Mais, admettons, mais comment ça se fait qu'on trouve personne, quoi ? C'est lié à quoi ? C'est lié au métier qui a vraiment une mauvaise image ?
Alors, on a passé des années à dire à nos jeunes, si tu n'es pas intellectuel, tu deviendras manuel.
Moi, je suis plus vieux que vous. Moi, on m'a carrément dit, si t'es trop con, tu finiras ouvrier. Hein, oui. Ou tu finiras sur un chantier.
Aussi,
hein. Bon, enfin, j'ai quelques années de plus que vous.
Hein. Bon. Oui. Bon, c'est une autre façon de le dire. Mais en effet, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un petit peu le retour de bâton. Pourquoi ? Parce qu'on a donné une réputation négative avec les difficultés physique qu'on peut rencontrer notamment dans ces métiers-là et en fait c'était presque dégradant de ne pas faire d'études entre guillemets hein, parce que pas faire d'études c'est pareil ce sont des termes un gamin qui sort d'un CAP qui fait un BEP après qui part un bac pro et qui derrière va faire une licence ça pour moi ce sont des études donc tout dépend de quel point de vue on le voit mais on a passé des années à dévaloriser ces métiers donc automatiquement à un moment il y a une pénurie ensuite on dévalorisait les métiers pour les jeunes, mais on dévalorisait nous aussi. Alors je me dis nous, même si moi à l'époque j'étais gamin, mais en termes de salaire, mes collègues entrepreneurs, pareil, dévalorisaient aussi. Je veux dire, quand on voit la pénibilité, ne serait-ce que pour un maçon, de travailler dehors toute l'année, aussi bien l'été avec les chaleurs que l'hiver avec l'eau et le froid, et qu'on voit les salaires qui étaient si faibles, automatiquement, ça n'attire pas et pas valorisé, on trouve personne.
Alors, j'invite les parents auditeurs à emmener leurs enfants, peut-être quand il y a des foires expositions dans le bâtiment où il y a tous les corps de métier, parce que à aujourd'hui, quand on s'intéresse au bâtiment, déjà, c'est des métiers qui deviennent de plus en plus techniques, même en maçonnerie, même en plâtrerie, on arrive à travailler des produits de plus en plus techniques, avec des méthodes de plus en plus techniques, enfin ça devient enfin il n'y a pas à attendre quoi. Il faut réfléchir hein, pour être dans le bâtiment à aujourd'hui quoi. Il n'y a pas que les mains, il n'y a pas que les muscles, donc ça devient intéressant. Et il y a aussi de plus en plus de machines qui alors je n'ai pas dit qu'il va rendre le métier facile hein, on n'en est peut-être pas arrivé à ce stade mais en tout cas qui soulagent ou qui facilitent peut-être.
Oui. Dans les 10 prochaines années, les métiers du bâtiment vont changer, sont amenés à évoluer, mais ça va aller très très vite parce que automatiquement, aujourd'hui, il y a l'outil qui va venir en complément. Bon, ça, c'est une chose. Après, on ne pourra jamais enlever les mains de l'artisan qui va fabriquer son meuble. Il y a des éléments qui ne pourront jamais être réalisés par une machine. Ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, que j'en ai pas parlé, c'est que par rapport à il y a 20 ans, le niveau de salaire dans le bâtiment pour la main-d'œuvre qualifiée a pris au moins entre 30 et 40%. Et je veux dire, aujourd'hui, c'est pas étonnant de voir un plombier chauffagiste qualifié, chef d'équipe, à 2500 euros net par mois. C'est tout à fait classique.
Ouais, et c'est un bon salaire, oui.
Voilà, mais en fait, on n'a pas communiqué assez là-dessus, et je pense qu'il faut aussi communiquer sur le fait que maintenant, la main-d'œuvre qualifiée, j'insiste bien sur qualifiée, parce que on cherche quand même des qualifications.
Pas un débutant, on ne va pas commencer.
Un débutant, mais je parle surtout, le débutant encore, il peut vite évoluer s'il a fait des études. Maintenant, s'il n'a pas fait d'études, un manœuvre de chantier, ça va prendre plus de temps. Mais une main-d'œuvre qualifiée, quelqu'un qui a un peu de bouteille, 5-6 ans de métier, qui va être capable de tenir un chantier seul, mais aujourd'hui, c'est vrai, c'est rémunéré, et quand on voit les niveaux de salaire, en dessous de 2000 euros net par mois, c'est classique.
Et ben merci Raphaël de nous donner cette information, parce que je suis sûr que peu de gens sont au courant de ça, parce que ça devient un salaire qui est tout à fait honorable. Ça.
Oui.
Quand vous parlez de gens qualifiés, on peut imaginer, on a un peu évoqué tout à l'heure au début de cette émission, quelqu'un qui a 40 ans ou 50 ans, et il est foutu dans le bâtiment ou il a encore une espérance de pouvoir continuer ?
Non, il n'est pas foutu. On va aller un peu plus loin. Là où ça peut devenir compliqué sur les métiers, là je vais parler avec mon expérience et les personnes que j'ai dans l'entreprise, c'est que quand on atteint 50 ans, 55 ans, physiquement, on commence à être on fatigue. Et on est aujourd'hui, nous, en tant qu'entrepreneurs, on demande de la productivité à nos gars. Parce que, bon, voilà, on a aussi nos impératifs à gérer. Mais à un moment, il faut se dire que à partir de 55 ans, sur des métiers, la plupart des métiers, mais je veux parler de ceux que je connais, le carrelage, la peinture, la plâtrerie, à partir de 55 ans, physiquement, il faut en demander moins, parce que ça devient vraiment compliqué. Malgré les outils, celui qui a 55 ans aujourd'hui, il n'a pas bénéficié de ces outils-là, il n'a pas eu de robot, c'est lui qui a tout fait. Et donc, c'est là où il y a un réel sujet sur comment réadapter les métiers. Peut-être, il y a des pistes, hein, on en discute avec mes collègues entrepreneurs, il peut y avoir des pistes sur la transmission de savoir, ça a été des sujets qui ont été évoqués d'ailleurs par le gouvernement, de se dire que peut-être qu'à l'âge de 55 ans, on peut peut-être faire évoluer le métier en se disant que c'est peut-être cette personne-là, 55 ans, qui peut avoir un apprenti et puis qui peut faire peut-être du mentorat et puis former les jeunes à venir.
Oui, il y a un dispositif qui existe depuis plusieurs années, hein, qui est la FEST, qui permet de pouvoir amener de la compétence, enfin transférer de la compétence en interne, dans l'entreprise, entre les collaborateurs, entre ceux qui ont la compétence, qui sont, on va dire, seniors, et qui vont pouvoir transmettre et élever le niveau des autres personnes. Donc ce dispositif-là existe, on parle pour tous les chefs d'entreprise depuis déjà quelques temps, et il est très efficace et il est très intéressant, ce dispositif. Qu'est-ce que l'on peut dire d'autre à aujourd'hui sur le bâtiment et sur le village qui... Vous ne faites pas que de la maison, hein, je crois. Hein.
Non, alors on a plusieurs services là. On a parlé du service qui s'adresse à la clientèle, notamment pour les chantiers. Mais on a un service aussi auprès des professionnels. Par exemple, on travaille en partenariat avec des agences immobilières sur lesquelles le service qu'on propose, c'est un partenariat qui va nous permettre d'aller évaluer les travaux et l'état d'une maison de façon à pouvoir valoriser au mieux le bien et qu'un agent immobilier, lui, puisse avoir une vision professionnelle et rassurer un futur acheteur et les éléments, en fait, pour parler de cette maison-là. À côté de ça aussi, on donne, et ça c'est personnellement, je le fais, je donne des formations, je travaille avec un centre de formation, je donne des formations qu'on appelle loi Allure, qui sont des formations obligatoires pour qu'un agent immobilier puisse avoir sa carte. Et là, moi, j'interviens dans les formations techniques du bâtiment. Donc ça, ce sont les partenariats qu'on a avec les agences immobilières. Pareil avec les cabinets d'assurance, on a un partenariat notamment avec l'assurance, le cabinet d'assurance MMA, Macary Charrier, sur lequel l'assuré qui a eu un sinistre, ça va passer par nous, en fait, va nous contacter et nous on va respecter un protocole de réactivité avec tout le service qu'on rend à notre client, mais ça va permettre aussi de fluidifier le cabinet d'assurance qui lui n'aura plus à gérer les appels des sinistrés et des problèmes avec les travaux.
D'accord. Raphaël de Mata, du village ACB, on va le redire, village-acb.fr. Vous avez évoqué un thème, effectivement, on a tous entendu cette chose-là, mais on oublie qu'un bon électricien, un bon plombier, un bon artisan aura toujours du travail, pourra toujours nourrir sa famille, ici et ailleurs. Il peut aussi s'internationaliser. Donc, effectivement, pourquoi former des psychologues et certaines professions intellectuelles sans aucun débouché, alors que parfois un bon manuel, lui, aura une espérance de vie, une carrière potentielle, éventuellement même internationale. Et si on agrandit un petit peu tout ça, parce qu'il me semble que la technologie rentre aussi dans votre domaine. On parle de ChatGPT, de l'intelligence artificielle dans les métiers du bureau et autres, mais la technologie arrive aussi dans le bâtiment. Elle va remplacer les compétences bas de gamme. Il y aura toujours besoin des créatifs, il y aura toujours besoin des experts, il y aura toujours besoin de ceux qui ont la touch, en fait, et l'expérience. L'imprimante 3D pour les maisons, elle arrive?
Alors ça, ce sont des vidéos qu'on voit sur Internet. Elles existent. Pour l'instant, on n'y est pas. Faire venir une imprimante 3D pour construire des maisons ici en Dordogne, c'est prendre un risque.
Alors est-ce que la technologie, vous, depuis les 20 ou 30 dernières années, est-ce que la technologie vient vraiment dans le bâtiment? Est-ce qu'il y a des améliorations que vous constatez?
Oui, la technologie arrive. Alors, sur l'outillage, bien entendu, sur la technologie aussi au service de l'organisation, au service de l'organisation de chantier. Voilà, on a des systèmes comme BIM. Alors, je ne vais pas développer là-dessus, mais ce sont des organisations. C'est un logiciel, en gros, pour essayer de vous expliquer, qui va permettre à l'ensemble des intervenants sur un chantier, aussi bien l'artisan que l'architecte, que le bureau d'études, de venir apporter des modifications, de communiquer. Voilà, c'est un mode d'organisation de chantier.
Vous avez des outils numériques. Vous avez
en outils numériques, voilà. C'est surtout là-dessus.
Vous avez développé vos propres solutions ou vous avez trouvé des solutions existantes?
Alors, on a trouvé des solutions existantes. On a aussi nos propres solutions, mais qui sont encore dans notre projet embryonnaire. En fait, le village, c'est aussi un laboratoire. Hein,
parce que le bâtiment fait de la technologie, fait de la programmation, développe des outils.
Oui, oui. Oui, d'accord. Oui. Et il faut, après, c'est pareil, c'est que il faut maintenant le faire intégrer à tout le monde, former tout le monde. On a beaucoup d'informations. Et puis, un artisan, quand on est dans notre journée, sur notre chantier, à gérer nos clients, etc., on n'a pas forcément toujours le temps de pouvoir s'ouvrir à tout ça. Mais par la force des choses, à un moment, c'était comme la formation RGE, qui est un agrément, en fait, pour l'environnement dans le bâtiment. Et il y a 10 ans, quand on en parlait, tous les artisans, oh ben non, on n'a pas le temps. Et aujourd'hui, on se rend compte de la nécessité d'être artisan RGE, notamment pour pouvoir proposer des travaux de rénovation énergétique et que nos clients puissent bénéficier des aides. Donc, ça arrive. Voilà.
D'accord. Est-ce que le bâtiment, on voit que le modèle bâtiment est peut-être beaucoup plus moderne que les clichés qu'on peut en avoir, est-ce que le bâtiment fait du business 2.0? Je veux dire, est-ce que si on vient vous voir, est-ce qu'on peut travailler avec vous? Est-ce qu'on peut revendre nos services? Est-ce qu'on peut faire de la portage à faire? Est-ce qu'on peut travailler avec vous si on est extérieur? Comment est-ce que vous voyez au niveau business, au niveau commercial, est-ce que le bâtiment s'est adapté à ces modernités?
Oui, le bâtiment s'adapte en termes de communication. La présence sur Google, dans les recherches Google, la présence sur les réseaux sociaux, automatiquement, ça s'adapte. D'ailleurs, on voit aujourd'hui beaucoup de plateformes du bâtiment fleurir, donc qui proposent des artisans, etc. Donc ça, c'est même si nous, du terrain, on a du mal à s'y faire, à ce genre de plateforme, il faut faire avec parce que peut-être qu'en Dordogne, on est dans un grand village, nous ici en Dordogne, mais en région parisienne, le mode d'organisation n'est pas le même. Ouais. Donc, il y a un juste équilibre à trouver entre ça. C'est-à-dire que si on parle de plateforme du bâtiment, on va se dire, OK, j'ai une plateforme, j'ai des adresses, mais c'est complètement déshumanisé. Alors qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on va un petit peu à contre-courant de ça, avec nous, avec le village, c'est qu'on se dit, on veut développer, au départ, sur la Dordogne, et si le laboratoire fonctionne bien, on peut s'étendre peut-être sur d'autres départements. Mais on peut arriver à allier les deux. Être une plateforme sur un site internet, mais avoir aussi un lieu de rencontre, comme le village, pour pouvoir amener de l'humain, et qui est super important dans nos métiers.
Moi, je vais juste évoquer un ancien de mes clients qui était en Thaïlande, à Hua Hin, qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent dans le bâtiment. Il a passé un accord avec une entreprise française de piscine. Pour toute demande de devis qu'il leur envoyait, il recevait 15 euros. Pour toute demande transformé, il recevait un pourcentage de vie transformée. Il a créé plein de sites, plein de référencements. Il a envoyé plein de business. Et sans être présent, il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affaires. C'est ça aussi le business 2.0.
Alors le numérique, oui, on est en train d'évoquer le numérique dans le bâtiment, mais moi si je me place au niveau du consommateur, du client, je ne m'en aperçois peut-être pas parce que ça bouge vite et puis on se fait vite prendre au jeu, mais aujourd'hui dans le bâtiment, ça surprend plus personne, pourtant. C'est hier d'aller voir un professionnel, surtout au village ACB, et de pouvoir commencer à discuter de notre projet avec une tablette dans les mains, en train de faire des plans 3D. Enfin bon, ça, il y a 20 ans de ça, ça existait, mais enfin, c'était réservé à très très peu de gens. À aujourd'hui, on a ces outils informatiques qui nous facilitent la prise de décision, qui nous ouvrent aussi un petit peu nos chakras, qui nous permet d'aller peut-être un peu plus loin que ce que nous pensions au départ au niveau consommateur. Et au lieu d'avoir une plateforme peut-être comme à Paris ou comme les grands centres urbains, vous, en tout cas, vous êtes une plateforme locale parce que 50 artisans qui travaillent ensemble dans le village, bien sûr, il n'y a pas 50 peut-être corps de métier, mais ça vous permet en tout cas d'apporter une réponse aux consommateurs. J'ai besoin d'un plombier, c'est vous qui allez vous en occuper.
Oui.
On est bien d'accord. J'ai besoin d'un électricien, c'est vous qui allez vous en occuper.
Ok. Vous avez tout compris.
Bien. C'était Patrice et Stéphane sur RLP Business, votre émission sur l'entreprise, le management, le commercial et l'économie en Dordogne. N'oubliez pas de liker le podcast YouTube si vous nous écoutez sur cette plateforme. Raphaël Mata du village ACB. Oui.
Juste une dernière chose, oui. C'est que je ne travaille pas tout seul. Je veux dédicacer, j'ai une équipe extraordinaire en fait qui fait vivre le village, 17 personnes. Je veux leur dédicacer cette émission et les remercier pour tout le boulot qu'ils font au quotidien.
Merci. Bravo. À eux et bravo, merci à vous, merci. Raphaël.
RLP Business.
Ma petite entreprise connaît pas la crise. Épanouie, elle existe. Des trésors satinés, dorés à souhait.
RLP.
Radio libre en Périgord.